L'invité du grand entretien ce matin est la ministre des Solidarités et de la Santé. Vos questions dans 10 minutes, appelez-nous 01 45 24 7000. Intervenez dès maintenant sur les réseaux sociaux et l'application France Inter. Bonjour Agnès Buzyn.
Bonjour.
Emmanuel Macron a donc présenté hier les grandes mesures du plan pauvreté. Ce discours, ses annonces étaient très attendues. 9 millions de Français, dont 3 millions d'enfants, vivent en dessous du seuil de pauvreté. Un Français sur 5 ne peut pas faire 3 repas corrects par jour. Pour affronter ce problème, le président de la République a dit vouloir un changement radical d'approche. Alors pour commencer, en quoi son approche de la pauvreté diffère-t-elle de celles qui ont précédé ?
Il a voulu hier une mobilisation générale. Il veut que tous les acteurs participent à l'éducation des enfants, à l'accompagnement dans l'emploi, se sentent en responsabilité d'agir plus tôt, de faire de la prévention et de mieux accompagner plus vite les personnes vers la réinsertion. Pendant très longtemps, on s'est quelque part défaussé sur les prestations monétaires en pensant que cela suffisait pour sortir de la pauvreté. Aujourd'hui, on sait qu'un enfant pauvre va rester pauvre pendant 6 générations avant de rejoindre les classes moyennes. C'est une spécificité française parce qu'en fait, les inégalités se creusent très tôt, dès l'enfance. Et donc, nous voulons prévenir en luttant contre ces inégalités de destin dès la naissance, à tous les âges de la vie, en accompagnant mieux les enfants, mieux les jeunes, en ne laissant aucun jeune au bord du chemin et en accompagnant dès le premier mois les personnes bénéficiaires du RSA vers l'emploi.
Donc les inégalités de destin et comment les traiter, c'est ça le cœur philosophique de ce qui a été dit hier.
Oui, deux leviers. Lutter contre les inégalités de destin dès la naissance, on va travailler sur tous les moments de la vie où il y a des ruptures et des inégalités qui font faire en sorte que ces enfants n'auront plus jamais aucune chance d'aller vers la formation, vers l'emploi et de revenir vers un revenu décent. Et puis le deuxième pilier, c'est un accompagnement vers l'emploi immédiat, dès qu'on est bénéficiaire du RSA, avec un accompagnement personnalisé et global qui prend en compte les problèmes de logement, de santé, d'alimentation et qui ne se satisfait pas de personnes qui restent au RSA pendant plusieurs années.
Alors la jeunesse, effectivement, hein, vous l'avez dit, il y a un très grand nombre, la jeunesse voire l'enfance, il y a un très grand nombre de mesures qui ont été détaillées, crèches, cantines scolaires, apprentissage du français, parcours de formation. L'autre grand pilier, c'est le revenu universel d'activité. C'est un chantier, a dit le président de la République hier, de plusieurs années, un chantier colossal. Mais pour qu'on comprenne le mécanisme, imaginons qu'il existe ce revenu universel d'activité, comment ça se passera, comment ça se passerait pour une personne en situation de pauvreté? C'est un guichet unique. Comment on fait valoir son droit à un tel revenu? Expliquez-nous.
Alors, avant de répondre à votre question, je veux d'abord expliquer pourquoi ce revenu universel. Aujourd'hui, les personnes qui sont les plus précaires ont affaire à une multitude de guichets qui, en fait, aboutissent à un non-recours au droit. C'est-à-dire qu'on leur demande tellement de papiers, d'aller dans tellement d'endroits, tous les mois, tous les deux mois, renouveler la CMU, renouveler le RSA, qu'à la fin, quand on est vraiment décrocheur du système, on est épuisé. La pauvreté aujourd'hui, c'est un sport de combat malheureusement. C'est tous les jours se battre pour accéder à l'alimentation, à un logement, à un droit spécifique, à une allocation. Et les gens n'en peuvent plus et décrochent.
D'où la fusion du maximum de minima sociaux dans ce futur dispositif.
L'idée, c'est d'éviter cette multiplicité de guichets, cette multiplicité des allocations. On demande sans arrêt des papiers différents. C'est une allocation unique qui va évoluer en fonction des revenus des gens et faire en sorte que plus on s'insère et plus on accède à un emploi, même à temps partiel, plus on est valorisé de façon à être incitatif et à aider les gens à s'en sortir par eux-mêmes. Parce que ce qu'on veut en fait, c'est leur rendre leur dignité. Et on sait aujourd'hui que le chômage, c'est le premier pourvoyeur de pauvreté en France.
Mais donc, ce sera un guichet unique, ce sera pour ceux qui ont droit ou veulent faire valoir.
Nous lançons une grande concertation pour savoir exactement quelles allocations vont rentrer dans ce revenu universel d'activité. Donc, on définira avec les partenaires et avec les personnes concernées, avec les associations, dans les 6 mois qui viennent, on va définir ce que sera cette allocation. Et ensuite, il y aura évidemment un seul guichet. C'est la simplification. On veut la simplification. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 30% des gens n'accèdent pas au RSA parce qu'ils n'ont même pas l'envie de demander le RSA, c'est ce qu'on appelle le non-recours.
Ce revenu universel, Agnès Buzyn, est conditionné, ou le sera en tout cas, une recherche active d'emploi, recherche active. Que se passe-t-il si cette recherche échoue ?
Alors, ce n'est pas seulement une recherche active d'emploi. C'est une recherche active d'emploi pour les personnes qui sont les plus proches de l'emploi, mais on sait qu'il y a des personnes qui sont très loin, qui ont des difficultés multiples, je l'ai dit, le logement, la santé. Et donc, ce qu'on leur demandera, c'est de s'insérer dans un parcours où ils cherchent à accéder à une formation ou à accéder à l'insertion par l'activité économique. Vous savez, ces entreprises solidaires qui font travailler quelques heures par jour ou par semaine des personnes très éloignées de l'emploi. Et donc, ce que l'on veut, c'est contractualiser pour que les gens s'inscrivent dans un futur, pour leur rendre leur dignité et pour leur permettre de retrouver une place dans la société. Ça n'est pas forcément un emploi pérenne, ça n'est pas forcément j'accepte n'importe quel CDI. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont très loin de tout ça et qu'il va falloir simplement accompagner dans une insertion et une formation.
Les très nombreuses associations travail sur la pauvreté, qui aide les personnes les plus précaires et les plus fragiles. Ces associations ont très souvent, en fonction de leur spécialité, entre guillemets, reconnu que tel aspect du plan était bon, qu'elles avaient été entendues sur certains points et donc se réjouissaient d'un certain nombre de mesures. En revanche, elle demande pourquoi ne pas avoir revalorisé le RSA là tout de suite. Le temps que tout se mette en place, le chantier c'est le chantier d'une génération, a dit le président de la République. En attendant, les gens restent très pauvres, ont besoin de s'en sortir tous les jours et le RSA, pas de coup de pouce, pas d'augmentation. Pour quelle raison ?
D'abord, le RSA augmente, il augmente avec l'inflation.
Pas de coup de pouce.
Pas de coup de pouce supplémentaire. On revalorise, je le rappelle, tous les minima sociaux que sont l'allocation pour adultes handicapés, le minimum vieillesse. Nous revalorisons aussi la prime d'activité. Donc, c'est la philosophie aujourd'hui, c'est qu'on revalorise vraiment les minima des personnes les plus en difficulté.
RSA.
Et là, non, et le RSA, on va accompagner les personnes. Aujourd'hui, ce qui compte, on a changé de philosophie, ce n'est pas parce qu'on rajoutera 10, 20 ou 30 euros à une personne au RSA qu'elle la sortira de la pauvreté. Ce qui va la sortir de la pauvreté, c'est de s'insérer dans la vie professionnelle, c'est de retrouver un emploi et de retrouver la dignité. C'est ça la philosophie du plan. Et donc,
mais il peut y avoir plusieurs temporalités, Agnès Buzyn. Il peut y avoir effectivement lutter contre les inégalités de destin et aider des gens tout simplement à se nourrir. Je redonnais le chiffre, un Français sur 5 ne peut pas faire 3 repas corrects par jour. Donc, dans ce cadre-là, 10, 20 ou 30 euros, là, tout de suite, maintenant, bah, ça permet peut-être de régler une partie de ce problème-là.
Aujourd'hui, on les a mis dans les cantines, vous l'avez vu, on les a mis dans les petits déjeuners. Aujourd'hui, il est intolérable que des enfants n'accèdent pas à un repas avant d'aller à l'école ou à la cantine scolaire. Donc, toutes les petites communes qui aujourd'hui ne peuvent pas faire des tarifs sociaux pourront faire la cantine à 1 euro pour les populations les plus défavorisées. Ça sera complètement accompagné par l'État. Nous aidons également ces communes à proposer des petits déjeuners avant l'entrée à l'école en zone REP et REP+. Et donc, ce sont des choix sur l'alimentation des enfants, sur les droits fondamentaux des enfants. Nous allons également mettre énormément d'argent sur la garantie jeune pour que les jeunes qui sont aujourd'hui entre 18 et 25 ans soient accompagnés vers le logement, l'alimentation, l'insertion, la formation. On passe de 100 000 à 500 000 garanties jeunes dans le quinquennat.
Mais quelle est l'explication pour le refus d'un coup de pouce supplémentaire au RSA ? Ici, maintenant, qui permet de traiter des problèmes ici et maintenant. C'est quoi l'explication qui fait que vous avez arbitré en disant non, on ne va pas faire ça,
Agnès Buzyn ? Je vais vous dire, selon que vous parlez à telle ou telle association, ils vont vous expliquer que c'est telle ou telle mesure qu'il faut faire. Ils ne sont pas tous d'accord pour, évidemment, pour la proposition que vous menez. Beaucoup nous ont dit mettez l'accent sur la jeunesse, mettez l'accent sur les 16-25 ans. Je rappelle que
le RSA n'est pas une urgence.
Non, mais les 18-25 ans aujourd'hui n'ont pas le RSA. Et donc, quelque part, la garantie jeune qu'on va mettre en place va accompagner tous ces jeunes aujourd'hui en désinsertion et qui sont, nous le savons, dans les rues, qui ont un taux de pauvreté considérable, un taux de chômage considérable. Nous allons les accompagner. Nous allons les accompagner vers une formation professionnelle. Nous allons leur redonner une chance. C'est un choix délibéré du gouvernement de miser sur la jeunesse.
Bon. Il y a une autre contradiction qui est, elle, pointée par la Fondation Abbé Pierre. Mais encore une fois, toutes ces associations reconnaissent qu'il y a des avancées dans ce plan, mais pointent un certain nombre d'éléments étonnants. Après avoir baissé les APL, comment peut-on faire un plan pauvreté alors qu'on sait, dit la Fondation Abbé Pierre, que les APL sont justement cruciales pour les personnes les plus précaires et les plus fragiles?
Alors,
ça aussi, c'est contradictoire.
Il y a, vous le savez, en parallèle de ce plan de lutte contre la pauvreté, la loi Elan, avec l'initiative Le Logement d'abord, qui a bien comme priorité de donner un logement décent aux personnes qui en ont le plus besoin. Nous avons rajouté dans le plan pauvreté, nous avons rajouté des mesures sur le logement. Nous allons mettre 125 millions d'euros pour réhabiliter l'hébergement des familles. Aujourd'hui, nous savons que le visage de la pauvreté a changé, que nous accueillons de plus en plus de familles en hébergement d'urgence, en nuit d'hôtel. Tout cela n'est pas du tout favorable à ce que ces familles reprennent un pied dans la société, que ces enfants étudient à l'école. Et donc, nous allons transformer le logement aujourd'hui pour accueillir les familles. C'est un choix, là aussi, d'accueillir en priorité des familles.
Mais c'est contradictoire, Agnès Buzyn, c'est ça ce que je veux dire.
Non, c'est pas contradictoire, c'est complémentaire, monsieur Demorand.
On peut annoncer un très grand plan pauvreté et en même temps voir les APL baisser. Et là, on se dit, c'est pas en même temps, c'est pas complémentaire, c'est contradictoire. On peut pas faire les deux en même temps.
Pas du tout, on fait les deux.
Ou alors on admet d'être contradictoire, mais ça c'est un autre sujet.
Nous allons faire le revenu universel d'activité qui va simplifier l'accès au droit, uniformiser l'accès au droit et régler ce problème d'APL versus RSA versus prime d'activité où les gens sont perdus dans ce à quoi ils ont droit. Nous savons que toutes ces prestations font l'objet de non-recours, sont assez inéquitables en réalité. Et l'idée, c'est d'avoir une simplification pour l'accès au droit, plus de justice, plus d'équité et l'absence de non-recours. Nous visons d'éradiquer le non-recours au droit par le revenu universel d'activité.
Allez, je vous fais une citation parce qu'il y a eu des critiques techniques portées par un certain nombre d'associations, des critiques politiques également, une parmi beaucoup d'autres. 8 milliards d'euros sur 4 ans, ce n'est pas un pognon de dingue comparé aux 24,9 milliards sur 5 ans du plan richesse avec la suppression de l'ISF et de la flat tax. Ça, c'est Boris Vallaud, député socialiste, qui l'écrit sur Twitter. Que lui répondez-vous? C'est une critique qu'on voit aussi au Standard là dans quelques instants de France Inter.
C'est beaucoup plus d'argent que le plan pauvreté du quinquennat précédent. Donc je pense que c'est le plan qui est le mieux financé de tous les plans de lutte contre la pauvreté depuis un grand nombre de décennies. C'est la première fois qu'un président de la République depuis plusieurs décennies parle de la pauvreté en France. Le quinquennat précédent, François Hollande n'en avait pas parlé. Et donc, clairement une volonté du président de la République de changer de paradigme, de ne pas se satisfaire aujourd'hui de ce que nous observons sur le terrain et de redonner une chance aux gens, réellement. Et donc, je trouve la remarque de Boris Vallaud bien maladroite, parce qu'ils n'ont pas mis autant sur la table les 5 ans précédents, d'une part. Et d'autre part, la société que nous voulons est une société qui repose sur un triptyque, une économie saine, une réduction des déficits d'une part, une société basée sur la connaissance avec tout misé sur l'éducation, parce que nous serons une société qui vivra des compétences des personnes et c'est comme ça qu'on s'en sortira. Et un troisième pied du triptyque qui est la cohésion sociale, et c'est ce plan qui participe justement à ce troisième pied du triptyque.
C'est un virage social, Agnès Buzyn, ce
certainement
qui s'est passé
pas
hier.
Je pense qu'on a oublié toutes les mesures sociales que nous avons effectuées la première année. Je pense évidemment aux mesures de Jean-Michel Blanquer sur le dédoublement des classes de CP et devoirs faits. C'est profondément social, évidemment. On oublie le reste à charge zéro, qui est une réforme d'envergure qui permettra à tous les Français d'accéder à des soins d'optique, de dentaire sans reste à charge. Personne n'avait jamais osé le faire et personne ne pensait qu'on y arriverait. Ce sont des mesures sociales. Je pense au logement d'abord. Ce sont des mesures sociales. C'est pas parce que personne n'a envie d'en parler, parce que justement on veut coller une étiquette au président, qu'elles n'ont pas été faites.
Donc vous pensez que la critique récurrente sur le président des riches est infondée et injuste?
Non seulement c'est infondé et injuste, mais c'est aujourd'hui, quand on regarde, et c'est intéressant d'ailleurs, quand on regarde nos mesures sociales, le dédoublement des classes de CP, le reste à charge zéro, personne dans les oppositions de droite comme de gauche ne prononce jamais ces mots-là. Pourquoi ? Parce que ça les gêne. Parce que ce sont de très bonnes mesures. Ce sont des mesures profondément sociales. Et donc, en fait, il y a un blackout. Personne ne veut en parler parce que, en réalité, ce sont des mesures que tous les gouvernements auraient rêvé de faire et qu'ils n'ont pas fait.
Alors moi, la question que je posais était pour commencer sur l'ISF, absolument pas sur le reste à charge. Il y a encore énormément de questions. Beaucoup d'auditeurs au standard. 01 45 24 7000. Julie, bonjour.
Bonjour, monsieur Demorand.
Et bienvenue.
Bonjour Madame la Ministre.
Bonjour Madame.
Je voudrais vous poser une question. Voilà, moi j'ai travaillé à l'âge de 16 ans, j'ai été arrêtée à l'âge de 26 ans pour des problèmes de santé. Je suis en invalidité, en pension d'invalidité, en deuxième catégorie. Donc vous savez que je ne peux pas travailler et je gagne 380 euros. J'ai bien écouté le plan pauvreté et je n'en fais pas partie. Donc je voudrais savoir ce que va faire le gouvernement pour les gens comme moi qui touchent très peu en pension d'invalidité et qui ne rentrent pas dans votre plan pauvreté.
Merci Julie pour cette question. Agnès Buzyn vous répond.
Alors, tout le monde rentre dans le plan pauvreté en ce sens que c'est un plan qui vise à redonner leur chance à toutes les personnes qui le souhaitent. Alors je ne sais pas votre cas particulier madame et je ne sais pas si vous avez la capacité ou pas d'effectuer certains emplois à quart-temps ou à mi-temps et donc évidemment je ne peux pas répondre à votre situation particulière mais l'objectif de ce plan c'est que personne ne reste en dehors du chemin. C'est vraiment d'attirer tout le monde vers le retour, vers l'insertion, vers la sociabilisation. C'est simplifier l'accès aux droits. Et donc, je ne sais pas évidemment à quel droit vous avez en dehors de votre revenu d'invalidité. C'est difficile de parler d'une situation professionnelle. Mais vraiment, la philosophie de ce plan, c'est qu'on ne laisse plus personne au bord du chemin.
Stéphane est en ligne depuis Marseille. Bonjour et bienvenue, Stéphane.
Bonjour, merci de prendre ma question. Elle est simple. Qu'est-ce qu'on fait pour le monsieur qui doit avoir eu à peu près 60 ans en bas et qui vit en bas de chez moi dans la rue avec son chien et qui ne retrouvera probablement jamais l'emploi et un fonctionnement normal?
Merci Stéphane pour cette question. Agnès Buzyn.
Alors, vous avez raison, il y a des personnes qui sont très 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 loin. On connaît tous certaines personnes sans domicile fixe qui ont probablement quelques troubles psychiatriques, voire certains des addictions, et on sait bien que ces personnes-là, on ne va pas leur donner un emploi pérenne, un CDI dans l'entreprise. Mais ces personnes-là, toutes les expérimentations, notamment les territoires zéro chômeur, qui est une expérience extraordinaire qu'on va déployer, montrent que on peut les prendre par la main et en s'occupant à la fois de leurs problèmes de santé, en leur donnant un logement avec ce qu'on appelle des appartements thérapeutiques, où des personnes viennent les soigner, viennent les accompagner au quotidien, leur apprendre à se réalimenter, à tenir un budget. Eh bien, petit à petit, même ces personnes les plus éloignées, on peut les réinsérer dans des entreprises d'insertion où ils vont venir une journée par semaine ou une heure par jour apporter leur pierre et retrouver une place dans la société. Toutes les expériences le montrent, personne n'est inemployable au sens très large évidemment. Je ne parle pas, je le dis, d'un emploi de cadre, c'est pas le sujet, mais personne ne peut être totalement abandonné. Si on accompagne correctement ces personnes, elles peuvent retrouver leur place et les expérimentations Territoire zéro chômeur l'ont démontré.
On retourne au standard. Je salue Mathieu. Mathieu, vous avez la parole. Bienvenue. Bonjour.
Bonjour, je m'appelle Mathieu. Je suis psychologue clinicien au centre hospitalier Philippe Pinel à Amiens. Depuis 80 jours, je vois mes collègues tenir un collectif de défense par l'hôpital. Ils dorment et ils vivent jour et nuit devant l'hôpital. Ils demandent à la ministre et à l'ARS des moyens supplémentaires dans un hôpital qui a fermé 4 services, 80 lits. En quelques années, avec une suroccupation des lits, un nombre de soignants insuffisant, des médecins qui s'en vont par rapport aux conditions de travail qui se sont très fortement dégradées. Le collectif a le soutien du maire d'Amiens, Brigitte Fourré, de Xavier Bertrand, le président de région, des députés Barbara Pompili, des associations de famille, et rien n'est fait depuis 80 jours.
Merci Mathieu pour cette intervention. Agnès Buzyn vous répond.
Bonjour monsieur, je sens votre émotion dans la voix et je comprends parce que la psychiatrie française traverse une grosse crise. Elle a des causes multiples. D'abord un manque d'investissement dans la psychiatrie depuis des dizaines d'années, c'est le parent pauvre de la médecine. Une démographie médicale en baisse, donc il n'y a plus assez de médecins psychiatres et donc nous peinons à recruter. Donc plus on a des difficultés à recruter parce qu'il n'y a pas de médecins, plus les conditions de travail de ces médecins médecins qui restent dans les hôpitaux sont difficiles. Et donc, il y a un besoin de réinvestir dans la psychiatrie. C'est ce que j'ai proposé avec une feuille de route particulière. Je regrette qu'on politise cette question. Malheureusement, c'est une question de mise en place de stratégies de contournement d'un problème de démographie médicale et de manque d'investissement chronique dans une spécialité qui, malheureusement, répond à des besoins croissants des Français.
Madame la ministre de la Santé, est-ce qu'il va y avoir un plan psychiatrie comme il y a eu un plan cancer ?
Alors, aujourd'hui, nous allons, vous le savez, dans 4 jours, proposer une réforme du système de santé.
Est-ce qu'il y aura un plan de psychiatrie ?
Donc, dans la réforme du système de santé, il y a évidemment des mesures pour la psychiatrie. J'en avais fait ma priorité en arrivant au gouvernement. Il se trouve que j'en avais aussi.
Mais un plan au sens mobilisation générale ?
C'est un plan au sens mobilisation générale, au sens meilleure organisation. Il faut aussi savoir que dans la psychiatrie...
Il y aura un INCa, comme il y a l'Institut du cancer. Est-ce qu'il y aura un INCa de la psychiatrie ?
Non, aujourd'hui... En fait, ce qui a motivé qu'on crée un INCa, c'était le fait qu'il y avait des progrès techniques très importants qui devaient être intégrés à la pratique professionnelle. C'est pas le cas de la psychiatrie. La psychiatrie, le problème, c'est vraiment l'organisation, la démographie médicale, comment on forme de nouveaux psychiatres, comment on accède à des psychologues. Et puis aussi, il y a une question de pratique en psychiatrie. Il y a certains hôpitaux psychiatriques qui, malheureusement, ne répondent pas aux bonnes pratiques et qui sont mis en difficulté par les autorités quand elles viennent visiter sur place et qui s'aperçoivent que...
Mais donc, en tout cas, un plan, une volonté de mobiliser...
Il y a une volonté ferme, je vous l'ai dit.
Parce que le cancer, ça a avancé. Kayat le dit encore aujourd'hui, que ça a été rendu possible par cette mobilisation.
Oui, mais ça répond...
Et les psychiatres demandent la même chose, on les a entendus sur France Inter.
Oui, mais ça répondait, en fait, à de nouvelles pratiques et au progrès médical. La psychiatrie, c'est autre chose. Et donc, ça nécessite que la psychiatrie revienne dans le giron de la médecine, se rapproche de la médecine, ce qu'on appelle somatique, c'est-à-dire les soins courants, parce que ça a été trop longtemps considéré comme complètement à part. On a exclu la psychiatrie. D'ailleurs, les hôpitaux psychiatriques sont parfois en dehors des hôpitaux ou en dehors même des villes. Et donc, il faut réintégrer, il faut une psychiatrie inclusive, complètement intégrée au système de santé et qui bénéficie des mêmes avancées.
Dernière question rapide. Confirmez-vous la suppression du numerus clausus dans les études de médecine ?
Alors aujourd'hui, je ne confirmerai rien.
Et pourquoi ?
Parce que aujourd'hui...
Parce que la question est posée trop tôt parce et que vous attendez 4 jours pour y répondre.
Parce que la réforme du système de santé sera présentée dans 4 jours et que c'est une réforme globale qui vise à la fois à traiter les problématiques d'organisation des soins de ville, à régler le problème de nos hôpitaux qui sont en souffrance, à régler le problème de la formation de nos étudiants en santé au sens large, dans lequel il y a un très profond mal-être.
Et donc, le numerus clausus sera-t-il supprimé ?
Et donc, je répondrai dans 4 jours, monsieur Demorand.
Donc, vous n'avez pas démenti, ce qui veut juste dire que vous attendez simplement votre propre calendrier, c'est cela ?
Et nous discuterons, c'est le président de la République qui fera évidemment les annonces et qui discutera avec les professionnels de comment faire en sorte que nos étudiants en santé souffrent moins aujourd'hui des études. Je parle non seulement des médecins, mais aussi des infirmières, on le voit, ou d'autres professionnels avec un profond mal-être.
Bon, on n'aura pas eu la réponse à cette question en tout cas. Merci Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, d'avoir été au micro d'Inter ce matin.